France Bleu Bray Zizel.
La petite touche pour Adnan dans la surface de réparation.
Oui, Youssef! Oui, Youssef! L'ouverture du score! Crochet le but!
2-0 pour Brest!
Ici, c'est Brest.
Ici, c'est Brest. Avec Thomas Lavaux. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Nicolas. Bonsoir tout le monde. Au programme ce soir, on va revenir sur la 25e journée de Ligue 2 disputée vendredi et la victoire de 2-1 du Stade Brestois face à Bourg-en-Bresse. Victoire tardive à la toute dernière minute grâce à un pénalty transformé par Youssef Annan. On revient sur ce match dans quelques minutes avec Steven Joseph Monrose, l'attaquant brestois, et également Maxime Dallet-Brest qui sera en ligne avec nous. Brest a montré du caractère vendredi soir pour aller chercher cette victoire. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison. A contrario, les Tizèf ont encore été vulnérables durant leur temps faible. Bourg-en-Bresse a une énorme occasion à la 86e pour prendre l'avantage en toute fin de match. Je pense que si Bourg-en-Bresse marque à ce moment-là, c'est terminé. Derrière, Brest n'arrive pas à revenir. Heureusement, cette fois, ça s'est bien terminé. Et puis, on parlera bien sûr du prochain rendez-vous du Stade Brestois avec un déplacement à Niort vendredi soir. Les Chamois niortais qui luttent pour le maintien. On parlera encore foot dans la deuxième partie d'émission avec le 8e de finale de Coupe de France du Football Club de Lorient. Sa Réunion Lorient, mercredi soir, c'est un club de CFA, Sa Réunion. Notre consoeur de France Bleu Alsace nous dira à quelle ambiance doivent s'attendre les Merlus. Et puis on s'interrogera sur leur tactique à ces Merlus, avec l'arrivée de Jimmy Cabot, avec samedi soir les matchs décevants de Waris et de Jouffre contre Montpellier. Eh bien Lorient doit-il se réorganiser? On verra ça dans quelques minutes. Dernier invité en fin d'émission, Manu Fouché, l'entraîneur des volleyeuses de Quimper, qualifié pour la finale de la Coupe de France fédérale, la Coupe de France des amateurs. Elles sont invaincues en 16 matchs de championnat, les volleyeuses quimperoises, et elles vont très certainement retrouver le niveau pro la saison prochaine. Et puis évidemment des jeux ce soir, deux places pour le match Brest Red Star à Le Blé le 19 février, et deux places pour le match de handball, Brest-Bretagne Handball Mérignac, deuxième division féminine, le 27 février prochain. On est ensemble jusqu'à 19h.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
Avant d'accueillir nos premiers invités, comme c'est de coutume, on va revivre la victoire de vendredi soir face à Bourg-en-Bresse, Perona, avec les commentaires tels que vous les avez vécus sur France Bleu Bray Zizel. Et le bon jaillissement de Manuel Pérez, super devant Julien Bègue pour prendre ce ballon. Et il allonge le jeu vers Steven Joseph Monrose. Le contrôle de Joseph Monrose. Monrose face à face, face à Fabry. Il est devant le but et malheureusement, Alexandre Alphonse qui s'est jeté mais qui a été trop court pour reprendre. Et pour le moment, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt appliqué du côté brestois. Baïssama Sanko dans le rond central. Il a glissé le ballon pour Batocchio. Petit ballon pour Batocchio. Alexandre Alphonse qui n'est pas hors jeu, qui contrôle ce ballon de la poitrine, qui se retourne, qui frappe. Et la frappe qui est contrée par Perraudin. Et qui est relancée derrière. Allez, avec Alexandre Alphonse à 20 mètres du but. On est dans l'axe du terrain. Bruno Grougy qui se fait sur son pied droit. Ouais, qui a vu la montée de Gaëtan Bello sur le côté droit. Bello dans le prolongement de la ligne des 16 mètres. Le centre, Alphonse tout seul. But, Alexandre Alphonse pour le Stade Brestois à la 9e minute de jeu. Oh, la passe décisive de Gaëtan Bello. Et le but d'Alexandre Alphonse, son 3e cette saison. Avec un bon mouvement quand même. Encore une fois, un but bien construit par les Brestois. C'est Baïssama Sanko qui prend le ballon, qui rentre dans la moitié de terrain adverse. Baïssama Sanko qui laisse le ballon à Bruno Grougy. Grougy qui a vu l'appel de balle sur sa droite de son latéral. Gaëtan Bello qui prend ce ballon, qui prend de la vitesse, qui s'entre au ras du sol et qui trouve tout seul dans la surface de réparation Alexandre Alphonse. Et à la 10e minute de jeu, à la 9e minute de jeu plutôt, le Stade Brestois qui ouvre le score. Dembélé pour Quentin Lacour. Encore une fois sur le côté gauche, Quentin Lacour dans la profondeur pour Julien Bègue. C'est Sanko qui est au marquage. Julien Bègue qui fait un tour sur lui-même, qui remet en retrait. Centre de Lacour, deuxième poteau sur la tête de Greg Lorenzi. La reprise en demi-volée. Oh, de la part de Jimmy Nirlo, c'était cadré. Et heureusement, c'est bien arrêté par Johan Artok. Première frappe dans cette rencontre pour Bourg-en-Bresse-Perona. Et première frappe cadrée, donc à la 39e. Bon, il se passe pas grand-chose dans cette deuxième période. Hein. Et Alexandre Alphonse, bien joué pour Joseph Monrose, qui a du champ sur le côté droit. Joseph Monrose, un petit crochet pour mettre dans le vent Fèvre. Centré deuxième poteau, reprise. Oh, la parade énorme sur cette heure. Reprise de Grégory Lorenzi. Reprise de volée pied gauche de Grégory Lorenzi. Un geste d'attaquant. Elle était cadrée. Et belle parade de Fabry pour préserver le score 1-0. Alors attention ici à Le Blé, coup franc pour Bourg-en-Bresse-Perona. Coup franc qui est situé dans l'axe du terrain, faute de Fallette qui a déclenché la colère des Brestois. Et coup franc tiré par Damour au point de pénalty repoussé par la tête de Simon Fallette. Il renvoie le ballon vers lui. Pas de Brestois à la retombée. Aliou Dembélé qui va glisser sur le côté droit. Centre, tête de Sané et l'égalisation à la 65e. L'égalisation de Bourg-en-Bresse, égalisation de Pape Sané sur un centre de Dimitriou, centre venu de la droite. Et la tête de Pape Sané qui vient placer ce ballon dans le but de Johan Hartog. Greg Lorenzi de la tête à nouveau, il renvoie le ballon plein axe, pas de Brestois, la retombée, tête de Peradin. Peradin toujours dans Sané, Sané qui va glisser ce ballon, frappe de Johan Hartog, frappe de Loïc Damour sur cette passe de la tête de Sané, frappe de Loïc Damour. Il était à l'entrée gauche de la surface de réparation, intérieur pied droit, frappe cadrée au ras du sol et arrêt de Johan Hartog. Manu Pérez, faut pas attendre ce ballon, Manu, il se fait devancer par Julien Beg. C'est Lagdar Boussa désormais, c'est du 2 contre 3. Heureusement Lagdar Boussa qui n'assure pas sa passe, mais contre favorable. Attention danger, Lagdar Boussa, la passe pour Pape Sané à 20 mètres. Pape Sané pour Julien Beg dans la surface de réparation. Balle de but et Johan Hartog qui sauve son camp en déviant cette frappe en corner. Et on va pouvoir effectuer ce coup franc. Batocchio et son pied droit. Allez, c'est pas trop mal ce ballon. Il y a une tête brestoise, est-ce qu'il y a eu une main? Un pénalty pour le Stade Brestois. Pénalty pour le Stade Brestois. Il y a eu une main bressane dans la surface de réparation. Oh! Alors Greg, si jamais tu revois le ralenti en studio, je crois que c'est Florian Auger qui est d'ailleurs expulsé pour cette main. Youssef Adnan face à Fabry. Ils prennent beaucoup de pénalty, hein. Je crois que c'est ce que nous avait dit notre collègue du Progrès. Et ça s'est encore vu ce soir, les Bressans. 89e minute de jeu. Oh, le stress encore. Mais dans quel état je me mets? Coup de sifflet. Allez Youssef. Ah, le but de Youssef Adnan. 2-1.
Ici, c'est Brest.
Voilà, 18h16, on est donc revenu sur cette victoire de 2-1 vendredi soir contre Bourg-en-Bresse Perona et on va revenir une dernière fois en compagnie de notre invité. Il est au téléphone, c'est Steven Joseph Monrose. Bonsoir Steven.
Bonsoir.
Alors Steven, très honnêtement, vendredi soir, juste avant le coup franc qui va amener le pénalty transformé par Youssef Adnan, on sentait que le Stade Brestois avait plus de difficultés à développer son jeu qu'en première mi-temps. Est-ce que vous n'êtes pas dit, là encore, la victoire, on va peut-être avoir du mal à aller la chercher? Ou est-ce que vous pensiez encore, Steven, possible cette victoire?
Bah, franchement, c'est assez compliqué à dire. Quand on est sur le terrain, on pense toujours à vouloir gagner, même s'il reste 15 minutes ou 10 minutes. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas cette facilité quand on mène au score et qu'une équipe revient à gagner en fin de match ou quand on doit égaliser. Pour nous, c'est un peu difficile. Je pense que c'est la première fois que ça nous arrive, donc ça fait du bien. Mais je pense qu'on y a cru sur le moment. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas eu l'occasion sur ce penalty de batailler jusqu'à la fin. Après, c'est vrai que honnêtement, quand c'est une égalisation comme ça, on perd le contrôle du match et bon, faut se remettre dedans. Là, on a réussi, c'est bien. C'est l'une des premières fois, donc faut garder le bon. Voilà.
On fait très souvent le constat que cette équipe manque peut-être de caractère quand elle encaisse un coup dur, que ce soit une ouverture du score, que ce soit une égalisation. Elle a du mal derrière à réagir. Est-ce que toi, avec ce deuxième but marqué vendredi soir très tardivement, Steven, Joseph, Monrose, tu vois l'expression du caractère de cette équipe?
C'est vrai, l'image de l'engagement, on sent tout de suite qu'il y a une fébrilité. Après, ils ont une occasion tout de suite pour le D1. Mais après, je pense que c'est vrai qu'on manque certainement un peu de caractère, mais je pense qu'on y travaille beaucoup. Après, voilà, c'est des faits de match. Je pense qu'on a un peu de mal sur ça. Mais bon, je pense que dans l'ensemble du match, c'était mérité notre victoire. Donc, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup aussi d'occasions. Donc, c'est un résultat mérité amplement. Et je pense qu'on s'est battu jusqu'à la fin pour amener ce résultat, en tout cas.
Parce qu'encore une fois, Steven, sur l'ensemble de la rencontre, c'est vrai qu'il y a eu un temps faible, notamment en deuxième mi-temps, où on sentait que Brest concédait peut-être davantage d'occasions. Mais il y a également eu un temps fort. Et durant durant lequel vous vous avez sorti de bons mouvements, notamment durant les 10 premières minutes de jeu. Vous marquez lors des 10 premières minutes de jeu. Est-ce que toi tu expliques que Brest soit capable de montrer deux visages au cours d'un même match?
Franchement, c'est dur à expliquer. C'est vrai qu'on a la capacité à faire de gros matchs. Souvent, quand je prends l'image de Nancy où on fait un bon match, qui est un match très équilibré, ce match fait référence et Paris FC un peu moins bien. C'est vrai que c'est difficile à expliquer. C'est vrai qu'on a deux visages. On va à Lens, on montre un autre visage. On reçoit, on arrive à développer un jeu et de la qualité. Après, je pense que notre équipe doit plus prendre dans la maturité, l'efficacité, que ce soit devant ou derrière, on doit être plus efficace, je pense. Franchement, je pense qu'avec le travail qu'on fournit tous les jours à l'entraînement, il faudrait passer ce cap pour vraiment essayer d'équilibrer ces résultats tous les week-ends, quoi.
Alors vendredi soir, Brest a changé de tactique, est repassé à un 4-4-2 avec un milieu davantage en losange. Et toi, dans cette tactique-là, tu apparaissais sur la ligne de deux attaquants aux côtés d'Alexandre Alphonse en première période. Est-ce que ces adaptations tactiques, qui sont quand même assez fréquentes cette saison, ça change assez régulièrement, il faut... Toi, t'y adapter, parce que cette saison, t'as aussi vu ailier, toi également attaquant. Donc, est-ce qu'il faut s'adapter à ça? Est-ce que ça explique parfois aussi peut-être certains tâtonnements?
Je sais pas si c'est important la tactique, si de changer ou de pas changer. Je pense que le coach, il a fait son choix. Maintenant, cette tactique. Les plus anciens de Brest, ils y ont joué les années précédentes, donc ils la connaissent. Moi, personnellement, quand je joue devant ou ailier, j'ai joué les deux postes, donc je m'exprime mieux devant. Mais après, comme je répète souvent, la tactique, je pense que c'est pas le plus important. Je pense que c'est ce que tu y mets dans le contexte et dans...
C'est l'investissement.
Dans le match. Et aujourd'hui, on a changé de tactique. Bon, ça a marché, on a bien joué, mais c'est pas une fin. Je pense qu'il faut continuer là-dessus. Et après, le coach, il fait ses choix et son boulot. Nous, on doit répondre à ses attentes. Et ça a été fait pour ce week-end. Et tant mieux pour tout le monde. Voilà.
Alors, le Stade Brestois rebascule dans la première moitié de classement grâce à cette victoire face à Bourg-en-Bresse. Et puis désormais, Brest qui rejouera vendredi soir également pour la 26e journée avec un déplacement à Niort. Ce sera donc vendredi soir à partir de 20h. Ce sera à suivre sur France Bleu, Braille Zizel. Un mot sur Niort. C'est vrai que cette saison, le Stade Brestois n'a jamais réussi également à enchaîner les victoires. N'a jamais réussi à enchaîner deux victoires consécutives. Est-ce que malgré tout, vous, les joueurs, vous gardez toujours l'espoir de continuer à jouer un rôle dans cette Ligue 2 ? Vous pensez toujours possible de pouvoir enchaîner une série de résultats positifs ?
Moi, je pense que tout est possible dans le football. Après, je pense que, comme je dis, il faut passer ce cap de pas pouvoir faire ces séries qui nous rapprocheraient en tout cas du haut de tableau. Et on sait que notre difficulté, c'est les matchs à l'extérieur. Donc maintenant, je pense qu'il va falloir vraiment s'affirmer à l'extérieur, prendre de la confiance en nous et essayer de ramener des résultats à l'extérieur, parce que c'est quand même important pour essayer de recoller en haut. Si on peut prétendre espérer monter, mais je pense que tout le monde y croit quand on est joueur, on y croit tôt ou tard, tant que au niveau comptable c'est possible. Il faut y croire. Après, il faut se donner les moyens, c'est sûr. Et nous, en tout cas, on travaille pour se donner les moyens. Après, je connais pas le résultat de ce week-end pour promettre une victoire. Mais en tout cas, on va tout faire pour essayer de ramener ces trois points pour recoller en haut, quoi.
En tout cas, le Stade Brestois, donc 9e avec 33 points, 10 points de retard sur le 3e, le FC Metz, et puis également 10 points d'avance sur Créteil Lusitanos, qui sera le premier relégable. Pour rebondir sur ce que tu disais également, parler de déclic, ou en tout cas de déclic à l'extérieur, c'est essentiellement mental, en fait. C'est plus là que le levier se trouve.
Je sais pas si c'est l'effet extérieur ou mental ou... Moi, je pense que c'est pas l'envie, parce que l'envie, on a toujours la même envie le week-end, on veut gagner, on veut retourner avec la victoire. Après, c'est des petits ingrédients qui nous manquent des fois à l'extérieur, des comme à Ajaccio par exemple, où on perd le match sur des corners. Donc voilà, c'est un peu le mental, c'est un peu tout, mais je pense que l'état d'esprit y est, ça c'est le plus important. Et si on arrive à rectifier certains points, je pense que pour l'équipe, ça peut le faire, parce qu'on a vraiment une bonne équipe quand on veut, et on sait le faire, on sait bien jouer, on sait apporter des victoires. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas gagner à l'extérieur, surtout que les équipes sont à notre portée. Maintenant, c'est des petits ingrédients qu'il faut qu'on trouve tous ensemble pour essayer de ramener les 3 points. Voilà.
Steven, tu restes avec nous, on te garde encore quelques minutes et on te retrouve juste après la première pause dans cette Ici c'est Brest. Première pause pour jouer, puisque comme vous en avez l'habitude, on vous offre des places pour aller voir le stade brestois durant les rencontres au stade Francis Leblé. Et donc on a 2 places à vous offrir pour la prochaine rencontre à Leblé. Ce sera Red Star Brest, ou plutôt Brest Red Star, 27e journée de Ligue 2. Ce sera pas ce vendredi, ce sera le vendredi d'après. La question, elle est assez facile. Youssef Adnan a marqué vendredi. Évidemment, c'est le meilleur buteur brestois. Mais combien de buts a-t-il marqué depuis le début de la saison? Est-ce qu'il en a marqué 7? Est-ce qu'il en a marqué 8? Est-ce qu'il en a marqué 9? 02 98 53 65 65 02 98 53 65 65 et c'est Laurence qui est au standard et qui attend vos réponses dès à présent.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
À 18h25, on retrouve pour quelques minutes encore Steven Joseph Monrose qui est en ligne avec nous. Et Steven, on va parler désormais un petit peu plus de toi. On sent que tu montes en puissance dans cette formation brestoise. Tu étais titulaire, on t'a vu plusieurs fois vendredi soir aux avant-postes face à Bourg-Péronas, sans trop de succès. À Lens, tu étais suspendu, mais avant Lens, tu avais sorti 2 passes décisives en 2 matchs. Ça n'a pas été linéaire pour toi cette saison, parce que t'es arrivé, on t'annonçait ailier, t'as joué devant, tu t'es blessé face à Ajaccio, il a fallu revenir, etc. Saison, est-ce que tu penses que ça y est, t'es enfin lancé dans ta saison?
Franchement, les débuts à Brest, c'est vrai, ont été difficiles, dans le sens où dans mon ancien club, j'ai pas forcément fait la préparation avec le groupe. Donc,
c'était en Belgique.
Hein. En Belgique, je suis arrivé un peu avec un petit retard physique. Là, je me suis vite remis dans le bain par rapport à l'équipe. Et c'est vrai que là où quand je commençais à jouer, j'ai eu cette blessure qui m'a un peu freiné à la cheville, qui a duré plus d'un mois, un mois et demi. Donc c'est vrai que quand tu reprends et tu te sens bien et que tu te reblesses, ça met un coup au moral. Et ensuite, tout le reste, je suis revenu, mais bon, on prend toujours le même mois pour se rétablir. Donc un mois, je suis revenu, c'était un peu compliqué pour moi, même si j'ai joué. Et aujourd'hui, j'ai repris avec une préparation, et c'est vrai que j'ai les jambes, je me sens mieux. J'essaie d'apporter au maximum à l'équipe ce que j'ai pas encore, et puis j'ai envie de montrer aussi ce que je sais faire en forme. Donc pour l'instant, ça marche assez bien. Donc il faut continuer là-dessus, même si j'ai pas eu de stats pour ce week-end. C'était, je pense, un bon match de ma part, donc il faut que je continue là-dessus et continuer à travailler. Voilà.
Quand tu parlais de ces difficultés, cette blessure face à Ajaccio, bon, un mois d'arrêt, un mois pour revenir, hein, c'est généralement proportionnel. Ah. Comment tu as passé le cap? L'équipe commençait déjà à s'engluer en milieu de classement, mais comment est-ce que tu es revenu mentalement?
Mentalement, je pense que c'est une de mes forces. Mentalement, j'ai toujours eu la capacité de me remettre en question beaucoup et de jouer. Je sais que je réussissais pas tout, mais je savais que j'étais pas aussi non plus à mon niveau. Donc après, quand on sait ça, je pense que c'est le travail au quotidien, l'entraînement et cette mentalité de gagneur ou de pas lâcher pour essayer de revenir à son niveau. Parce que si tu lâches, je pense que t'es mort. Et après, quand tu lâches pas, le coach, il voit au quotidien que tu continues à travailler. Donc forcément, il te donne ta chance. Après, c'est à toi de la saisir, comme je dis toujours. Maintenant, il y a du potentiel à Brest. On est nombreux, on est beaucoup d'attaquants. Donc c'est toujours un travail au quotidien pour gagner sa place. Et il faudra continuer à être performant. De toute façon, le coach, je pense qu'il fait ses choix. Il fait les bons choix. Il fait les choix qu'il voit à l'entraînement. Donc après... c'est à nous de lui montrer qu'il mérite le plus ou moins de jouer. En tout cas, en ce moment, En tout cas, c'est grâce au travail, on va dire, et ma capacité à oublier les blessures et les petits pépins. Voilà.
Steven, dernière question. C'est vrai qu'au mercato d'hiver, il y a eu pas mal de départs d'attaquants, également au Stade Brestois, Melvin Padjeu, William Séa, Mamadou Samassa sont partis. Auparavant, il y avait beaucoup plus d'attaquants dans l'effectif. Maintenant, il y a moins de monde. Ça ne veut pas dire que la place est acquise, mais est-ce que c'est un petit peu plus facile à gérer, un peu plus facile à vivre également?
Un peu plus facile dans le sens où on est moins oui, parce que il y avait une rude concurrence, mais le travail est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a assez d'attaquants pour le coach a assez d'attaquants pour changer. Je pense à Kevin Koubemba, je pense à Alex Cuvillier, je pense à Brian Pelé, on a Youssef Hanman, qui est notre meilleur buteur, donc je pense que...
Alexandre Alphonse, buteur vendredi également.
Ouais, Alexandre Alphonse aussi, qui à chaque fois qui a sa chance sur le terrain, qu'il la prend vu qu'il marque, il marque les coups. Donc je vous dis, il y a du talent dans cette équipe, et c'est bien, au contraire, ça montre qu'on a une équipe compétitive, et que les gens ils lâchent pas. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est les zones de vérité, être plus efficace, que ce soit défensivement ou offensivement. Et je pense qu'il y a des choses à faire, même s'il reste sur cette fin de saison, il y a des choses à faire. Faut pas tout remettre, faut pas tout abandonner. Je pense qu'il faut continuer, garder cette persévérance et continuer à travailler pour enlever les mauvaises choses de notre équipe.
Eh ben, on espère en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Steven Joseph Moros, que vous arriverez enfin à enchaîner et donc sur la pelouse de Niort vendredi soir. Merci Steven, bonne soirée, à très bientôt.
Vous aussi.
Et merci d'être intervenu sur France Bleu Braise Isel. Pour clore la page Stade Brestois, on accueille Mathieu qui nous a appelé au standard de France Bleu. Bonsoir Mathieu.
Bon, oui, bonsoir.
Mathieu de Guy Pava. Déjà Mathieu, vous remportez les deux places pour le match Brest-Red Star le 19 février prochain. On va répondre à la question qu'on a posée il y a quelques minutes. Je vous demandais tout bêtement combien de buts Youssef Hanan a marqué cette saison en Ligue 2, ce qui fait de lui d'ailleurs le meilleur buteur en championnat du Stade Brestois.
Alors la réponse, c'était la numéro 2, c'était 8 buts.
Voilà, c'était effectivement le 8e but cette saison de Youssef Hanan. Il marque essentiellement à Francis Leblay, Youssef Hanan. Hein. Sur ses 8 buts, il en a marqué 6, seulement 2 à l'extérieur. Et là, c'est un but en plus marqué sur pénalty. Vous étiez peut-être au match, Mathieu?
Oui, j'étais au match, ouais, avec un ami à moi, ouais, on a apprécié le match. Franchement, Brest avait bien joué sur ce match-là comparé à avant, et la victoire était méritée.
C'est vrai que, faut dire les choses aussi, souvent cette saison à Francis Leblay, on s'est parfois un peu ennuyé, notamment le match d'avant face au Paris FC. Et là, on a vu, alors c'est par moment, hein, c'est pas sur 90 minutes, mais on a enfin vu du jeu et puis de beaux mouvements par moment. Est-ce que vous, Mathieu, vous pensez que le Stade Brestois est encore capable de jouer un rôle dans ce championnat, comme nous le disait Steven Joseph Moros, faut pas se démoraliser. Mais est-ce que vous pensez qu'ils peuvent encore jouer un rôle dans ce championnat, Mathieu?
Ben oui, j'espère au moins que contre Niort, le prochain match à l'extérieur, ça va donner, et que Niort joue le maintien comme certains. Et j'espère aussi qu'ils arriveront à enchaîner au moins des victoires, parce que c'est vrai qu'ils n'ont jamais fait deux victoires consécutives depuis le début de saison. Ils ont gagné qu'une seule fois par match.
La dernière série de deux victoires en championnat, je crois que c'était en novembre 2014. Donc effectivement, ça commence un peu à remonter. Mathieu, pour conclure ce match de Niort, là récemment on est allé à Nîmes, on a relancé Nîmes. Récemment on est allé à Ajaccio, on a relancé Ajaccio. Est-ce que vous le craignez pas quand même un peu, ce match?
Si, je craignerais quand même, je pense, sur ce match-là, comme c'est à l'extérieur et toutes les équipes à domicile veulent gagner, comme Brest, parce que Brest aussi est bon à domicile, mais à l'extérieur, ils ont plus de mal. Je pense que ça paraît un peu compliqué, mais tout ce que je veux, c'est que Brest se bat jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour après être maintenu tout de suite en Ligue 2 et finir la première partie du classement.
Ouais, en tout cas, le Stade Brestois, c'est valeur de combat. C'est le Stade Brestois que l'on connaît, et puis c'est le Stade Brestois qu'on espère. Merci beaucoup, oui. Mathieu. Et puis, rendez-vous donc à Francis Leblay pour le match face au Red Star. Deux places pour vous et la personne de votre choix en tribune Arkéa. À bientôt, Mathieu. Okay.
À bientôt, Thomas. Au revoir. Bonne soirée.
Bonne soirée à 18h33. On fait une petite pause, quelques messages promotionnels, et derrière, on parle du Football Club de Lorient.
À Brest, de la Cavale Blanche au Dourjac, ma radio, c'est France Bleu Braise Isel.
Pour la Saint-Valentin, France Bleu Brésisel sort le grand jeu et la limousine. À 8h40 jusqu'à vendredi, soyez le plus rapide. Trouvez le mot mystère et gagnez votre week-end en amoureux les 13 et 14 février. Le bouquet de fleurs, la limousine jusqu'à la pointe Saint-Mathieu, le menu dégustation Saint-Valentin et la nuit en hôtel 4 étoiles. Vous allez tomber raide dingue de France Bleu Brésisel.
France Bleu. Je vais vous raconter une histoire d'utérus. Ça pourrait être le vôtre, mais c'est le mien. J'ai 51 ans et comme beaucoup, j'ai arrêté de voir mon gynéco. Plus de projet de grossesse, plus besoin de contraception. Bref, je n'ai plus pensé aux frottis contre le cancer du col de l'utérus. Là, j'attends mes résultats. Je me demande si je n'ai pas quelque chose de grave. Alors n'oubliez pas, après 45 ans, le frottis, c'est surtout pas fini.
Le ministère de la Santé et l'Institut National du Cancer vous recommandent un frottis tous les 3 ans pour dépister le cancer du col de l'utérus. À faire chez un médecin ou une sage-femme.
Mes douleurs aux genoux? Depuis ma cure thermale à Gréoux, j'ai repris l'escalade et je vise les sommets.
À Gréoux-les-Bains, en Haute-Provence, nous avons 18 jours pour soigner vos rhumatismes, soulager vos douleurs et réduire vos médicaments. 9 mois après leur cure, 82% des curistes interrogés montent leurs escaliers plus facilement. Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.
Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32. 0800 32 32 32 ou chaînethermale.fr.
Et ben qu'est-ce que tu fais?
Bah je m'entraîne pour la HD.
Ah t'as raison, allez hop. Si on a une antenne râteau, on allume sa télé et on se met sur les chaînes 7 puis 57. Si on voit le logo Arte HD en haut, à gauche de l'écran sur l'une des deux chaînes, c'est bon.
Et si on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on fait?
Eh ben on va vite chercher un adaptateur TNT HD.
Eh oui, sinon on ne recevra plus la télé.
La télé passe à la haute définition. Faites le test et équipez-vous si besoin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site recevoirlatnt.fr.
Ici, c'est Brest.
On continue de parler de football et après le stade brestois, on va parler de l'événement foot de la semaine. C'est le 8e de finale de la Coupe de France et le FC Lorient qui mercredi soir se rend loin là-bas, très loin à Sarre-Union en Alsace. Et on va retrouver notre consoeur de France Bleu Alsace, Lucille Guillotin. Bonsoir Lucille.
Bonsoir Thomas.
Et puis, comme à chaque fois qu'il est question de Merlu sur France Bleu Brésisel, il arrive avec son tablier, son filet, Greg Robin. Salut Greg.
Bonsoir Lucille, salut Thomas, salut tout le monde.
Bon déjà, commençons par parler de ce huitième de finale de mercredi soir, Sarre-Union, club de CFA. Et ça se passe pas spécialement bien pour Sarre-Union, parce qu'on en a entendu parler en coupe, ils ont sorti plusieurs équipes de Ligue 2, Lucille, mais en fait, en championnat, cette équipe de Sarre-Union, elle est lanterne rouge de sa poule.
Oui, c'est tout le paradoxe cette saison de Sarre-Union qui est effectivement dernier de sa poule dans une poule relevée. Hein. Il y a quand même Grenoble, Lyon-Duchère et des grosses réserves de clubs pro. Mais c'est vrai que Sarre-Union n'y arrive plus en championnat. Hein. Leur dernière victoire, c'était le 31 octobre dernier.
Ah,
ils
oui.
sont sur une série, une très très mauvaise série. Ils avaient un match en retard qu'ils ont perdu samedi dernier contre la réserve d'Auxerre. Et alors, c'est pas catastrophique au classement parce que certes, ils sont derniers, mais ils ont que 4 points de retard sur le premier non relégable.
Et en CFA, une victoire, c'est 4 points.
Ouais, exactement. Mais par contre, c'est plutôt la dynamique qui est très très mauvaise. Alors on le sait, hein, y a des clubs comme Quevilly, il y a quelques années de ça à Calais. On laisse de l'influx en Coupe de France et c'est ce qui arrive malheureusement à cette équipe de Sarre-Union. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est finalement le contenu, c'est pas tant les résultats, c'est que Sarre-Union marche sur l'eau en Coupe de France. Elle a écrasé l'équipe de Niort, j'y ai assisté à cette rencontre. Donc Niort, club de Ligue 2 que le club de l'Alsace-Bossu a éliminé en 16e de finale. Très sincèrement, Sarre-Union méritait de gagner 3-0. C'était vraiment un jeu léché, ils ont eu énormément d'occasions.
Et ils ont gagné que 1-0.
Ils ont gagné que 1-0, alors qu'en championnat, c'est très mauvais. Donc voilà, c'est tout le paradoxe cette saison de Sarre-Union.
Mais on parlait de Quevilly, de Calais, et puis on peut également ajouter à tous ces exemples Concarneau, qui les saisons dernières, quand arrivait l'hiver et qu'il fallait cumuler Coupe de France et championnat, peinait également, et ça a coûté cher, notamment en championnat. Bon, Greg, vu comme ça, présenté comme ça, normalement ça doit pouvoir le faire pour les Merlus, même si on a des exemples récents de défaites, d'éliminations en Coupe de France, notamment il y a 2 saisons à Yzeure, club de CFA. On sent quand même que cette saison, les Merlus sont peut-être un peu plus concernés. Tour précédent à Boulogne, c'est passé après prolongation, mais c'est passé quand même. Et puis au tour d'avant, face à Tours, au Moustoir, c'est passé après prolongation, mais c'est passé quand même. Est-ce que tu le ressens quand même, toi aussi, Greg ?
Ouais, c'est passé. C'est pas facile pour les Merlus cette saison en Coupe de France. Réception de Tours, hein, si je me trompe pas, c'était victoire à l'arraché.
Bah, les deux fois 3-2, hein. Tours et Boulogne, ouais, les deux fois 3-2.
À Boulogne, ça a été compliqué aussi. Et comme tu le disais, hein, historiquement, le FC Lorient a du mal face aux équipes de CFA, notamment. Notamment, tu as dit Yzeure, je crois qu'il y avait eu il y a quelques saisons Avranches.
Avranches, c'était national. Hein. Avranches, c'était national. Mais en même temps, l'objectif de Loïc Ferry cette saison, c'est d'emmener Lorient au Stade de France. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Là, on n'a pas le choix.
Ouais, ils n'ont pas le choix, les Lorientais. Maintenant, il va falloir les gagner quand même, les matchs, puisque bon, sa réunion, on va dire que c'est un des tirages les plus intéressants pour Lorient. C'est toujours plus agréable de jouer contre sa réunion que contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, il va falloir s'imposer. Puis ensuite, si Loïc Ferry veut amener son équipe au Stade de France, il y a encore deux tours à passer. Donc, la première étape, ce sera mercredi. Et Sylvain Ripoll va certainement faire tourner, puisqu'il ne faut pas oublier, Thomas, qu'on a joué pas mal en Ligue 1. Hein.
Ouais, mais moi, je ne suis pas persuadé qu'il va faire tant tourner que ça. Parce que si vraiment la Coupe de France devient un objectif, même si en Ligue 1, bon, on est 12e, il n'y a plus rien à craindre, encore qu'il n'y a que 5 points d'avance sur le 18e. Moi, je pense pas qu'il va forcément faire tourner. Alors, Lucille de France Bleu Alsace, Greg disait il y a quelques secondes que sa réunion, c'était peut-être l'un des meilleurs tirages pour le FC Lorient. Mais quand tu parlais de jeu léché, de jeu appliqué au précédent tour face à Niort, bah, finalement, est-ce qu'à sa réunion, on se dit pas aussi que le FC Lorient, c'est un très beau tirage parce que c'est une équipe qui va jouer?
Alors, bah, y a deux choses. Déjà, ils étaient très déçus parce que les deux boules suivantes, je sais pas si vous venez du tirage, c'était le PSG et Lyon. Donc, sa réunion, quitte à être éliminé par un club de Ligue 1, préférait être sorti par le PSG. Bon, si ça avait été le PSG, ça serait joué à Strasbourg, à la Méno, parce que le parc Omnisport sera un énorme atout, je vous garantis, hein, pour sa réunion mercredi, ça c'est une évidence. Mais donc, oui et non, parce que ils étaient quand même très déçus du tirage. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Eric Becker est un fin tacticien, le coach de sa réunion. Et c'est vrai que le schéma tactique mis en place contre Niort a fonctionné à fond les ballons. Donc voilà, ça sera deux équipes joueuses sur un terrain peut-être un petit peu compliqué, puisqu'on est dans l'Alsace du Nord, au confin de la Lorraine.
On est un peu en altitude, mais quoi. C'est-à-dire qu'il peut faire froid.
Et en plus, on parlait de la pelouse. Hein. La pelouse était très haute. Il y avait ce débat samedi contre la réserve de Serre. On les a un petit peu titillés en leur demandant... Voilà, Lorient a l'habitude de jouer sur un synthétique. Non, ils vont tondre la pelouse. Normalement, ça doit être fait aujourd'hui pour que la pelouse soit, on va dire, à hauteur normale. Mais écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sa réunion ne rendra pas les armes. Ça, c'est une évidence. Parce que bah, voilà, c'est toute l'Alsace qui sera derrière sa réunion mercredi, puisque c'est le dernier club alsacien en lice en huitième de finale.
Et quand tu parlais, Lucille, bah, fais-nous peur du stade, de ce stade de CFA, c'est quoi? C'est un tout petit stade, des toutes petites tribunes, des mains courantes, il n'y a pas de piste d'athlétisme, donc c'est limite si les latéraux ne sentent pas le souffle des spectateurs sur leur nuque, c'est comment?
Alors, c'est un parc omnisport, donc...
Donc il y a une piste d'athlétisme.
Oui, non, il y a juste sur un côté, mais sinon c'est un terrain, on va dire, normal, avec une petite tribune, et autour les gens se mettent au bord des mains courantes avec évidemment le vin chaud, la bière alsacienne qui coulera à flot autour du terrain. Et c'est vrai que c'est un... les supporters sarunionnais sont assez durs avec leur équipe, c'est un petit peu dans la mentalité alsacienne de toujours vouloir en demander plus, mais je peux vous dire qu'ils seront vraiment à fond derrière eux, et c'est voilà, on est confiné autour du terrain effectivement, donc c'est vrai que bah, Lorient n'a plus l'habitude, en tout cas les pros, hein, de jouer dans ce genre d'endroit, dans ce genre d'ambiance en tout cas, qui vraiment vraiment reflète le milieu amateur comme on l'aime, hein, Thomas, ça c'est clair. Oui. Mais je pense très sincèrement, si je venais de vous écouter, si le coach met une équipe à peu près type, normalement il devrait s'en sortir quand même assez facilement.
Ah, mais de toute façon, en coupe, la clé, on la connaît, c'est que si dans l'engagement Lorient, Greg, est à la hauteur de l'investissement de son adversaire. Normalement, après, la différence de niveau individuel doit permettre aux Merlus de faire la différence. Et quand je parlais, Greg, tout à l'heure, d'équipe, peut-être pas type, mais en tout cas, quand même d'équipe consistante, moi, je suis persuadé que les joueurs qui ont raté leur match face à Montpellier samedi, notamment les Waris, notamment les Yann Jouffre également, moi, je suis persuadé qu'ils seront là mercredi soir. Toi, Greg, tu t'attends à quelle équipe?
Ouais, je m'attends peut-être aussi au retour de Philippe Otto, qui n'était pas dans le groupe, si je dis pas de bêtises, contre Montpellier. Ouais, il a de quoi faire tourner, hein, Sylvain Ripoll, c'est-à-dire qu'il a pas deux équipes types, mais il peut quand même remplacer 4-5 joueurs titulaires pour pour cette rencontre. Et ce qui est positif surtout, c'est qu'il va chercher à mettre une équipe qui pourra jouer le contre, puisque sa Réunion apparemment va jouer aussi le jeu et joue plutôt un bon football. Donc ça, Lorient aime beaucoup, et je pense qu'ils vont utiliser les contres pour essayer de faire la différence.
Et donc ce sera à suivre mercredi 19h sur France Bleu Brésil, enfin en tout cas après les informations en langue bretonne. Donc rendez-vous quand même mercredi 19h sur France Bleu. On libère Lucille Guillotin, notre consoeur de France Bleu Alsace. Merci beaucoup Lucille.
Merci. Petite info quand même, les Lorientais auront un supporter local, Denis Bouanga, hein, votre joueur qui est prêté au Racing Club de Strasbourg, qui marche très très fort chez nous hein, depuis qu'il est arrivé. Il a déjà mis 2 buts en 3 matchs.
Et il joue en attaque ou il joue l'ailier plutôt ?
Il joue ailier droit. Ailier droit, et il a failli marquer un 3e but lors du dernier déplacement aux Herbiers. Et c'est vrai que voilà, il a porté énormément sur le front de l'attaque strasbourgeoise. Et il viendra au match voir ses copains, notamment Moukanjo qu'il a eu au téléphone cette semaine. C'est ce qu'il nous a confié vendredi dernier. Donc voilà, il y aura quand même du supporterisme local au Parc Omnisports pour les
bien.
Orientés.
Ça fera forcément du bien. Merci beaucoup Lucille, à très bientôt.
Merci, à bientôt, au revoir.
Et Greg, pour conclure avec toi, puisqu'on parlait des ailiers, restons dans ce sujet-là, puisque samedi soir face à Montpellier, match nul 1-0 contre Montpellier des Merlus, c'est vrai qu'on a senti un Yann Jouffre en difficulté. Alors la question, Greg, c'est est-ce que avec un Yann Jouffre assez irrégulier, sachant qu'il y a également un Philippe Otto, un Barthelmé, sachant que Denis Bouanga n'est que prêté à Strasbourg, qu'on a recruté Jimmy Cabot, est-ce qu'il faut pas adapter tout ça un peu tactiquement?
Ouais, je pense très franchement qu'il va falloir s'intéresser au cas des ailiers lorientais. Ça fonctionne très bien sur le côté gauche. On l'a vu la saison dernière ou cette année entre soit Le Goff, Guerrero ou Guerrero-Philippe Otto. Ça coulisse très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Et puis côté droit, on a toujours ce problème de Yann Jouffre qui, pour moi, ne fait pas le même travail que, par exemple, Guerrero ou Philippe Otto. Il arrive moins à percuter, il est plus dans le jeu avec ballon.
Bon, il a quand même fait de très bons matchs cette saison.
Il a fait des bons matchs, mais pour moi, il n'est pas à sa place, en fait. Il n'est pas à sa place.
Faudrait peut-être le repositionner dans l'axe.
Je le remettrais plutôt dans l'axe, au soutien des deux attaquants, puisqu'on sait qu'il a une bonne technique, Yann Jouffre. Il pourrait mettre des ballons dans la profondeur plus facilement que ce qu'il essaye de faire, justement, du côté droit, en essayant de mettre des longs ballons qui sont assez souvent...
Mais il se marcherait sur les pieds avec Moukanjo dans ce cas-là.
Ça c'est lui, il faut l'adapter son équipe. Mais non, moi je te dis, dans le 4-4-2 actuel de Lorient, je pense que, en plus avec l'arrivée de Cabot, ça met encore plus de concurrence. Je pense que Yann Jouffre n'a pas sa place.
Et encore une semaine, donc, à 2 matchs pour les Merlus. Mercredi soir, la Coupe de France, on en a parlé. Et puis samedi, déplacement pour la 26e journée de Ligue 1 à Nantes. Merci beaucoup, Greg.
Merci à toi.
Ici, c'est Brest. Thomas Lavaux.
Les volleyeuses de Quimper marchent fort cette saison. Elles sont en tête de la DEF, la deuxième division. Et puis ce week-end, elles se sont qualifiées pour la finale de la Coupe de France fédérale. Leur entraîneur Manu Fouché sera avec nous dans quelques secondes. Et puis on vous offrira également des places de hand.
Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu nu désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Je serai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'attrais tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile, je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. si j'étais celui. Toi tu es la seule, si je reste ici, tu rentres à Bruxelles.
Bruxelles avec Boulevard Désert sur France Bleu Braise Zizel. Peu avant 18h49, deuxième occasion pour jouer dans cette émission. Cette fois-ci, on vous offre des places de handball. Double actualité pour le Brest-Bretagne handball. Le club a annoncé ce lundi le recrutement de Marie Prouvencier pour la prochaine saison. Elle signera en juillet. C'est l'ailière droite du club de Dijon et de l'équipe de France, 26 sélections. Et puis, l'autre actualité, c'était hier le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Et qui Brest affrontera-t-il à l'Arena en avril prochain? Est-ce que ce sera Metz, Nice ou Toulon Saint-Cyr? Metz, Nice ou Toulon Saint-Cyr? En jeu, deux places pour aller assister à la rencontre Brest-Mérignac le 27 février. Le numéro de téléphone 02 98 53 65 65.
On joue ensemble au 02 98 53 65 65.
Et pour clôturer cette émission du volleyball, et on accueille l'entraîneur du Quimper Volley Elite, Manu Fouché. Bonsoir Manu.
Bonsoir Thomas.
Parce que il y avait l'actualité de la Coupe de France fédérale pour les volleyeuses quimperoises. Coupe de France fédérale, c'était le quart de finale samedi, puis vous êtes qualifié pour la demi-finale dimanche. Quart de finale, victoire contre Marcq-en-Barœul, et puis hier, victoire contre Amiens Longo. Donc ça veut dire que Quimper est en finale de la Coupe de France fédérale. En fait, c'est la Coupe de France hors ligue de volley.
C'est ça, c'est la Coupe de France pour les clubs amateur par définition, hors ligue nationale, et une belle finale, ouais. Un match à Paris, un événement à Paris le 27 mars, en levée de rideau justement des professionnels, donc super.
La salle, ce sera Carpentier, c'est
Coubertin, je
Coubertin,
pense.
Voilà, Coubertin. Plutôt Coubertin. Ouais. Oui, qui est la salle également, la grande salle de l'Ouest parisien, et puis devant des tribunes qui seront pleines.
Espérons-le, espérons qu'il y aura une mobilisation populaire de Bretons pour nous rejoindre et nous supporter là-bas. L'occasion pour le club de lever un premier trophée. On espère faire ça tous ensemble.
Est-ce que c'était un objectif en début de la saison? Bien sûr, il y a le championnat, on en parlera dans quelques secondes, la DEF, division élite féminine, qui est l'équivalent de la deuxième division. Dans un passé proche, Quimper avait goûté à l'élite. Est-ce que... En plus du championnat, la Coupe de France était à l'origine un objectif ou vous êtes prêté au jeu?
Ça, c'est un grand débat en interne depuis que je suis arrivé.
Les victoires appellent les victoires.
Non, tout simplement, courir deux lièvres à la fois, c'est risquer de se retrouver en culotte courte au printemps. Donc il faut hiérarchiser ses priorités. La nôtre, c'est clairement le championnat, c'est notre gagne-pain, c'est rejoindre la Liga.
Où ça se passe très bien pour le moment.
Pour l'instant aussi. Mais quelque part, c'est cette dynamique du championnat qui nous a, entre guillemets, forcé à être encore plus ambitieux en coupe. Donc la coupe devient un objectif maintenant qu'on est qualifié en finale. Réellement, on cible les choses et on va aménager un petit peu notre calendrier. Mais auparavant, on avait vraiment tout axé sur le championnat. La qualité de notre effectif et la volonté de nos joueuses font que on a réussi à s'imposer.
Parce que comme je disais, en championnat, ça se passe très très bien pour Quimper, puisque dans votre pool de DEF, vous êtes leader invaincu. Il reste deux journées de saison régulière. Cette première place n'est pas en danger. Donc vous vous êtes rendu quand même, entre guillemets, vous êtes mis dans un fauteuil pour la coupe.
Disons qu'on commence à sentir l'impact psychologique de nos victoires sur nos adversaires. Et dans la confiance qui règne au sein de notre groupe.
Parce que samedi en championnat, vous accueillez Marc que vous avez battu en quart.
Exactement, et qu'en demi on a battu Amiens, c'était la troisième fois qu'on les rencontrait, dont un match la semaine dernière chez eux, très compliqué, qu'on avait remporté 3-2, par la plus petite démarche 23-21 au tie-break. Donc on s'est construit une situation relativement favorable, mais comme je le dis, on se l'est construite, donc c'est beaucoup de boulot qui a été fait depuis le début, et beaucoup de chemin à venir encore, parce que même si on est en février, même si on a remporté 16 matchs sur 16, il nous reste quand même 10 matchs. Ces 10 matchs vont compter tous, plus cette fameuse finale. Et c'est là que tout va se jouer pour savoir si notre saison sera exceptionnelle.
Parce que donc il y a cette finale, mais le championnat, là pour le moment, on est encore qu'en phase régulière. C'est-à-dire que derrière, il y a une sorte de série finale de play-off en fait.
Alors pour essayer d'expliquer les choses...
C'est parfois compliqué
clair,
quand même la DEF ouais, et le volley, et depuis quelques saisons. Ouais.
Donc notre division, deux groupes de 8 équipes. Voilà, saison régulière, chaque équipe rencontre ses adversaires, ses 7 adversaires. À l'issue de ça, un classement est fait.
Et les 4 va se terminer dans 2 semaines.
Dans 2 semaines. Ouais. Les 4 équipes qui terminent en tête de leur groupe vont aller défier les 4 équipes de l'autre groupe pour l'accession, pour les deux premières places. Donc on aura engrangé un maximum de 18 points à l'issue de la saison régulière. Il y en aura 24 à distribuer lors de ces playoffs. Pour l'instant, nous, on a joué pour 12 points. Il en reste 6 à prendre dans les deux semaines à venir contre Marc-en-Barœul à domicile à la Allergie Armel le samedi à 20h et à Calais la semaine suivante. Et ensuite, on entamera la rencontre contre le, enfin la partie de compétition contre les équipes du Sud, on va dire, puisque c'est un peu géographique.
Oui, c'est des deux organisations géographiques en fait. Ouais. Donc, ça va être. On disait, il n'y a pas d'enjeu. Vous craignez pas de perdre la première place. Mathématiquement, c'est plus possible. Alors, il faudrait vraiment que vous perdiez vos deux matchs 3-0.
Même pas.
Voilà, quand même pas.
Même pas. Ouais. Même pas. On a creusé un écart qui nous permettrait de rester en tête de la saison régulière, mais ça n'a aucune importance.
Mais ces deux matchs-là, ça va vous servir quand même de répétition, voire d'échauffement peut-être en prévision de la fin de saison.
Non. On va surtout aller chercher les 6 points qui sont en jeu, qui eux comptent dans l'accession. C'est surtout ça. Il n'y a pas de répétition. On est lancé depuis maintenant 3 semaines dans un long sprint. Et chaque rencontre que l'on va jouer va être une rencontre décisive.
16 victoires de championnat. 16 victoires en championnat en 16 journées. On a l'impression d'une machine qui déroule sans accroc. Bien sûr, tu vas me dire que la clé, c'est le travail. Mais quels autres ingrédients pour expliquer ces bons résultats?
Cette impression de rouleau compresseur et de machine, c'est surtout la confiance qui s'est construite entre les filles et le staff qui fait que maintenant on arrive à retourner des situations. Quart de finale samedi, on débute très mal contre Marc-en-Barœul, on est mené 2-8 et on traîne ce débord de 6 points jusqu'au deuxième temps mort technique, on est encore mené 16-10. On ne passe devant qu'à 24-23.
Sachant qu'un 7 c'est 25. Hein.
Voilà, un 7 c'est 25, on ne passe devant qu'à 24-23. Donc au meilleur moment, mais on est voilà, on sent que à ce moment-là, lorsqu'il faut serrer les boulons, actuellement l'équipe a les solutions, elle a la stabilité mentale et on sent surtout que les adversaires eux se mettent à douter.
Parce que vous les avez déjà affrontés en championnat.
Donc on a déjà fait la même chose et voilà, il y a une petite recette. Il y a un petit côté magique qui est en train de se faire au sein de ce groupe. J'espère que ça durera jusqu'à la fin de l'année. C'est toujours délicat d'aborder ça alors qu'on n'a même pas fait la moitié du chemin, mais c'est ce qu'on ressent.
Parce que tu anticipes aussi ma prochaine question. Finalement, quels sont les risques qui pèsent sur cette équipe-là? Peut-être de se voir déjà arriver, de se dire qu'un faux pas, finalement, ce serait peut-être sans conséquence.
Ça, c'est une démarche que je veux pas avoir de la part des filles. Clairement, une des raisons de notre succès à Amiens la semaine précédente, c'est qu'à aucun moment le mot défaite n'est tombé sur le tapis. C'est quelque chose qu'on refuse. Il y a des vraies compétitrices au sein de ce groupe. Un faux pas, il peut tout remettre en cause. C'était l'enjeu de ce week-end, par exemple. C'était la coupe, c'était pas le championnat. Mais on savait qu'on pouvait tout détruire, entre guillemets. Après, le risque majeur, il n'est pas dans de la suffisance, parce que on a des joueurs suffisamment matures pour éviter ça. Il est dans la blessure.
Oui, aussi.
C'est un des facteurs qui nous ont coûté l'accession l'année dernière. Mmh. On y prête beaucoup attention. Là encore, c'était un risque majeur ce week-end. Deux matchs en 17 heures, deux matchs de haut niveau en 17 heures.
Plus le retour, plus ça se fait en quart et tout.
Le minibus là.
Minibus en plus. Ouais, donc il n'y a même pas de table de massage comme parfois dans les quarts.
Non, mais par contre, entre le match de samedi et le match de dimanche, on a fait appel aux élèves kinés de l'école de kiné d'Amiens qui sont venus masser les joueuses et c'était très appréciable pour elles. Donc voilà, ça c'est bien fait. La blessure reste un risque majeur. L'autre aspect, c'est que même si on a pris une avance en restant invaincu à l'heure d'aujourd'hui, il y a des équipes qui sont très proches de notre niveau. Amiens en est une. Marc et Calais le sont aussi. Et puis dans l'autre poule, des équipes comme Toulon ou comme Évreux sont aussi des équipes costauds.
Ben en tout cas, prochaine journée, prochaine levée pour Quimper, ce sera donc samedi soir 20h avec l'avant-dernière journée de saison régulière et Quimper qui affrontera une vieille connaissance. Marc, merci beaucoup Manu Fouché.
Merci.
Et bonne chance pour la fin de saison.
Merci.
Le faux billet est fait à la main tous les jours. Le faux billet arrive à 8h40 et revient à 11h40, du lundi au vendredi sur France Bleu Brésil. Les faux billets, et j'en ai plein les poches. France Bleu.
Aujourd'hui, ça fait un an. Un an que je passe des heures à relire tes textos qui me faisaient marrer.
Un an que tu es mort et que j'ai perdu mon petit-fils.
Un an que je regrette ce dernier verre.
Un an que je m'en veux de pas t'avoir retenu.
Un an que je pense à te rejoindre. Je ne sais plus comment continuer à vivre.
Un an que je réécoute de vieux messages pour ne pas oublier ta voix.
Derrière chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés. tous responsables.
Parlons peu, parlons pro avec Jean, conseiller pro Groupama et Cerise.
Alors qu'est-ce que les pros attendent de vous, Jean ?
Être bien accompagné pour avoir le bon conseil au bon moment.
Vous devez connaître parfaitement les besoins de chaque métier ?
C'est mon travail. Et pour les sujets les plus pointus, je sais vers quel expert Groupama me tourner.
Oui, donc vous pouvez proposer à votre client une solution personnalisée.
C'est ça. Je m'occupe de ses assurances professionnelles comme personnelles et lui se concentre sur son activité.
Prenez rendez-vous pour un diagnostic sur mesure sur groupamapro.fr. 100% avec les pros.
Voir modalité en agence.
Presque 18h59, dernière petite information sport, c'était aujourd'hui la première étape du Tour du Qatar, première des 5 étapes et premier breton. Coureur de l'équipe Fortuneo Vital Concept, 10e, c'était le Dinanais Arnaud Gérard. Et puis félicitations.